VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 25 mai 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burundi, dépôt d'un recours de la coalition d'opposition pour l'annulation des résultats du référendum constitutionnel du 17 mai.
En République démocratique du Congo, un prêtre catholique contaminé par le virus Ebola a été placé en quarantaine à Mandaka.
Visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au Mali, à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus, mardi.
Le président américain, Donald Trump, a annulé son sommet avec le leader nord-coréen, Kim Jong-un.
Et ne manquez pas notre page sport, ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burundi, la coalition d'opposition qui a fait campagne pour le non lors du référendum du 17 mai a déposé un recours pour faire annuler les résultats. La Cour constitutionnelle doit maintenant trancher. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Avant même l'annonce des résultats, l'ancien chef rebelle Hutu, Agathon Rwasa, et sa coalition avaient rejeté d'avance l'issue de la consultation. Selon l'opposition, le scrutin était inéquitable et marqué par les intimidations du régime. Et hier, Pierre-Célestin Dikoumana, le président du groupe parlementaire Amizero, a annoncé à la presse avoir déposé une plainte pour demander que les résultats du référendum soient annulés. Amizero avait également dénoncé, peu après le référendum, des cas de bourrage d'urnes et des procès-verbaux trafiqués. Les Burundais ont largement approuvé une réforme de la Constitution qui laisse la possibilité au président Pierre Nkurunziza de briguer à partir de 2020 deux mandats de 7 ans. Le Burundi est plongé dans une crise politique depuis l'annonce de sa candidature à un troisième mandat en avril 2015. Depuis, les violences ont fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés. Hier, Michel Kafando, le nouvel émissaire de l'ONU, a encore appelé à la reprise du dialogue inter-burundais pour sortir de la crise.
En République démocratique du Congo, un prêtre catholique a été placé en quarantaine après avoir été contaminé par le virus Ebola à Mandaka, ville touchée par l'épidémie dans le nord-ouest. Nous avons placé en quarantaine un prêtre du diocèse de Mandaka-Bikoro qui a été testé positif au virus Ebola, a déclaré à l'AFP une source médicale sous couvert d'anonymat, confirmant une information relayée dans la soirée sur les réseaux sociaux. Nous reviendrons sur la situation à Mandaka dans la seconde partie de cette édition.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, passera la journée internationale des casques bleus mardi prochain auprès des troupes de la mission de paix au Mali, la MINUSMA. Cette mission est la plus coûteuse en vie humaine des opérations actuelles des Nations Unies. Jean-Roger Bion.
Dès son arrivée mardi, M. Guterres assistera à une cérémonie en mémoire des casques bleus tués au Mali. La MINUSMA, qui compte environ 12 500 militaires et policiers, a perdu au total plus de 160 casques bleus, dont une centaine dans des actes hostiles depuis son déploiement en 2013. Le séjour au Mali du secrétaire général se veut aussi une visite de solidarité pour le Ramadan, au cours duquel M. Guterres va jeûner, selon le communiqué de l'ONU. Alors que le Mali se prépare à une élection présidentielle à la fin du mois de juillet, il rencontrera le président Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa réélection, le premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga et d'autres responsables maliens. Au cours de sa visite de 2 jours, le secrétaire général se rendra aussi dans plusieurs régions du pays pour y rencontrer des autorités locales, des membres de l'ONU ainsi que des représentants de communautés de femmes, de jeunes et de religieux. Antonio Guterres sera accompagné des secrétaires généraux adjoints pour le soutien logistique et les opérations de paix respectivement Atul Karé et Jean-Pierre Lacroix ainsi que la directrice de l'UNICEF, Henrietta Fore.
En Libye, au moins 7 personnes ont été tuées, une vingtaine d'autres blessées hier soir, dans un attentat à la voiture piégée à Benghazi, ville de l'Est, contrôlée par l'homme fort libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Selon l'AFP, qui cite un responsable local de sécurité, la voiture a explosé près de l'hôtel Tibesti, sur une avenue commerciale d'habitude animée au cours du mois sacré de jeunes musulmans du Ramadan. Les victimes sont toutes des civils, selon la même source. L'attentat n'a pas été revendiqué jusqu'ici, mais il serait apparemment le fait de cellules terroristes dormantes voulant démontrer que Benghazi n'est pas sûr.
Une Soudanaise de 19 ans a été condamnée à mort pour avoir tué son mari. Elle l'accuse de l'avoir violée et soutient qu'elle ne voulait que se défendre et elle a interjeté appel. Le point avec Marie Benson.
Noura Hussein a été reconnue coupable du meurtre intentionnel de son mari et a été condamnée à mort. Selon elle, l'homme que son père l'avait forcé à marier à l'âge de 16 ans l'a violé plusieurs fois. La sentence a déclenché l'indignation, notamment des Nations Unies et de groupes de défense des droits de l'homme. Les militants ont lancé une campagne intitulée « Justice pour Noura ». Pour Al-Fateh Hussein, l'avocat de la jeune fille, il pourrait se passer des mois avant que la cour d'appel rende sa décision. Selon Ravina Shambasani, la porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, le viol et les violences qu'a enduré Noura n'ont pas été pris en compte par le tribunal. Au Soudan, la loi autorise le mariage des enfants de plus de 10 ans. La porte-parole de l'ONU a exhorté le Soudan à modifier ses lois pour criminaliser la violence domestique et le viol conjugal.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a annulé le sommet qu'il devait avoir le 12 juin à Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Il en a rejeté la responsabilité sur Pyongyang et les récentes déclarations des Nord-Coréens. Pour M. Trump, il s'agit d'un grand revers pour la Corée du Nord et aussi pour le monde. Il a également averti que les forces armées des États-Unis étaient plus prêtes que jamais, avec leurs alliés sud-coréens et japonais, à répondre à toute action irréfléchie ou irresponsable. Entre-temps, Washington poursuivra sa campagne de sanctions et de pression maximale contre Pyongyang.
La Maison-Blanche avait, avant ses déclarations publiques de M. Trump, publié une lettre du président américain à Kim Jong-un disant « Malheureusement, au regard de l'énorme colère et de l'hostilité affichée dans votre dernière déclaration en date, j'estime qu'il n'est pas opportun à ce stade de maintenir cette rencontre », ajoute M. Trump, tout en ne fermant pas la porte à une rencontre ultérieure. Pour sa part, la Corée du Nord a adopté un ton conciliant, soulignant qu'elle était prête à négocier à tout moment malgré l'annulation du sommet de Singapour.
L'Iran continue, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, à respecter ses engagements au terme de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, accord dont vient de se retirer le président Trump. Mais l'agence a encouragé l'Iran à aller au-delà des exigences actuelles. Pour leur part, les États-Unis ont imposé hier de nouvelles sanctions contre l'Iran pour forcer Téhéran à renégocier l'accord afin d'inclure ses tests de missiles balistiques ainsi que ses ingérences militaires directes ou indirectes au Moyen-Orient. L'Iran, les Européens, la Chine et la Russie, quant à eux, se réunissent aujourd'hui à Vienne pour faire le point sur leur tentative de sauver l'accord de 2015.
En Syrie, des missiles, probablement tirés par l'aviation israélienne, ont frappé hier des dépôts d'armes appartenant au mouvement libanais Hezbollah, près de l'aéroport militaire de Dabaa, dans le centre, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des sources proches de la frontière libano-syrienne ont indiqué à l'AFP que des avions avaient survolé auparavant l'espace aérien libanais et certains y sont toujours, ce qui laisse présager de nouvelles frappes. Le Hezbollah, allié de Téhéran, combat en Syrie aux côtés du régime de Bachar al-Assad.
Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, qui a prêté serment dès jeudi à la suite de sa réélection dimanche, a accusé les États-Unis et la Colombie d'avoir orchestré une conspiration contre son pays, conspiration pour laquelle plusieurs militaires vénézuéliens ont été arrêtés. Le complot de ces soldats, dont on ne connaît ni le rang ni le nombre, visait à la suspension des élections de dimanche, selon M. Maduro. Le scrutin boycotté par l'opposition, qui y voyait une supercherie, a immédiatement été dénoncé par une grande partie de la communauté internationale.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le FMI a accordé au Mali près de 90 millions de dollars pour maintenir l'élan des réformes structurelles, améliorer le climat des affaires et soutenir une croissance robuste et inclusive. Les autorités doivent aussi poursuivre la décentralisation fiscale, mettre en œuvre la loi contre l'enrichissement illicite et inclure l'application des déclarations de patrimoine des fonctionnaires. La Côte d'Ivoire veut mobiliser $1 milliard pour financer sa politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Ce financement sera utilisé sur 10 ans. Abidjan entend notamment renforcer le strict respect du dispositif législatif et réglementaire de protection des arbres et des massifs forestiers, ainsi que mettre l'accent sur l'augmentation du nombre des aires protégées et des forêts classées. La Corée du Sud et la Banque mondiale ont convenu de soutenir les universités et les instituts de recherche d'Afrique subsaharienne. Séoul met en place un fonds d'affectation spéciale de $10 millions pour soutenir le Fonds régional de bourse d'études et d'innovation RSIF. Cet accord permettra de former des talents locaux hautement qualifiés pour la transformation de l'Afrique, notamment les énergies renouvelables, le big data, l'intelligence artificielle et l'ingénierie. Le fonds a été créé en 2015 à l'initiative de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda et du Sénégal. Il vise à contribuer à la création d'une main-d'œuvre technico-scientifique hautement qualifiée pour répondre aux programmes nationaux de développement et accélérer la transformation socio-économique de l'Afrique subsaharienne.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Finale Real-Liverpool, les prix flambent à Kiev.
La flambée des prix autour de la finale de Ligue des Champions menace de transformer le match de demain samedi entre le Real Madrid et Liverpool à Kiev en cauchemar pour les supporters. Des fans madrilènes ont préféré retourner 1000 de leurs tickets. Certains hôtels de la capitale ukrainienne ont même multiplié par 100 leurs tarifs habituels. Côté Liverpool, 1000 supporters risquent de manquer la finale après l'annulation de 3 vols à destination de la capitale ukrainienne par manque de créneaux d'atterrissage.
L'UEFA a adopté une nouvelle version du fair play financier.
Et oui, désormais, obligation est faite aux clubs de publier leurs informations financières, y compris les commissions faites aux agents, d'après un communiqué de l'UEFA. Le deuxième indicateur porte sur les dépenses de transfert, avec un solde maximum de 100 millions d'euros entre les dépenses et les ventes sur le marché des transferts, sans qu'il ne soit formellement interdit de dépasser ce solde. Pour rappel, le fair play financier vise à empêcher les clubs de dépenser plus qu'ils ne gagnent par leurs propres moyens.
Xavi a prolongé de 2 ans à Al Sadd.
L'ancienne vedette du Barça, Xavi Hernandez, 38 ans, a prolongé de 2 saisons son contrat avec les Qatariens d'Al Sadd. Il y a déposé ses valises en 2015. Le milieu espagnol, champion du monde avec la Roja en 2010, avait pourtant annoncé dans un premier temps vouloir se retirer. Devenu en mars dernier l'ambassadeur du mondial Qatar 2022, Xavi est aussi pressenti pour diriger la sélection hôte durant la compétition. Cette annonce de sa prolongation intervient au même jour que la signature de son ancien inséparable du milieu à Barcelone, Andrés Iniesta. Chez les Japonais du Vissel Kobe.
Ici en NBA, LeBron James est dans l'équipe type de la saison pour la 12e fois.
Et oui, c'est un nouveau record que vient d'établir la superstar de Cleveland, LeBron James. King James, qui dispute à 33 ans sa 15e saison en NBA, a dépassé le précédent record de 11 sélections qu'il co-détenait avec Kobe Bryant et Karl Malone. Et puisque nous sommes en NBA, on y reste avec vous, Idrissa. Le résultat du match numéro 5 de la finale de la Conférence Ouest en playoff, ça s'est joué entre Golden State et Houston Rockets.
Houston n'a plus besoin que d'une victoire pour éliminer le champion en titre Golden State et accéder à la finale NBA après son succès jeudi à domicile 98-94. Les Rockets mènent 3-2 avant le match numéro 6 qui aura lieu samedi à Oakland et avant, si nécessaire, le match numéro 7 deux jours plus tard à nouveau à Houston.
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, un prêtre catholique a été placé en quarantaine après avoir été contaminé par le virus Ebola à Mandaka, ville du nord-ouest touchée par l'épidémie, selon des sources citées par l'AFP. Mais en début de semaine, trois patients d'Ebola s'étaient échappés du camp d'isolement pour aller prier sans l'avis de leur médecin. Deux d'entre eux sont décédés. Eddie Isango a joint le pasteur de l'église, l'apôtre Élisée Ntoma.
C'était vers 21h. On nous a amené un monsieur transporté sur un taxi moto. Il est entré dans l'église et nous avons prié pour son cas. Mais vers minuit, des policiers et des médecins sont arrivés et nous ont demandé comment le monsieur était à ce lieu alors qu'il était en quarantaine, hospitalisé parce qu'atteint de la maladie à virus Ebola. Et nous avons répondu que sa femme, son fils et quelques autres membres de sa famille l'ont amené, disant qu'il était à l'hôpital depuis 2 mois et qu'il y a beaucoup souffert sans amélioration. Ils nous ont dit que c'était quelque chose de ténèbre et que ça nécessitait la prière. Nous l'avons dès lors relâché et au matin, les agents du service de santé sont venus prélever les identités de moi-même, de mes disciples et de tous les fidèles qui étaient à l'église, près de 70 personnes. Après cela, ils sont venus désinfecter les lieux, mais nous attendons car ils ont promis de venir pour faire le test de dépistage.
Quelles précautions avez-vous prises lors de la prière pour éviter tout contact ou toute contamination ?
Nous ne savions pas que la personne était atteinte par la fièvre hémorragique d'Ebola. Ce sont les médecins qui sont venus nous prévenir que si nous voyons une personne avec des écoulements du nez, vomissant et faisant de la diarrhée sanguinolente, il s'agit de symptômes de la maladie à virus Ebola. Mais avant cela, nous ne savions rien de signe de cette maladie. Nous étions dans l'ignorance complète.
Qu'en est-il d'autres personnes sorties de l'isolement qui sont mortes? Les aviez-vous aussi reçues dans votre lieu de prière?
Le seul cas que je connais est celui du monsieur pour lequel nous avons prié. Tout le reste, je l'apprends à travers la radio, mais je ne les ai pas personnellement vus.
Comment se passe votre cérémonie? Que faites-vous durant la cérémonie?
Nous prions simplement sans autre chose, tellement que le malade était à l'agonie. On l'avait étalé sur une natte. Aucun de nous ne l'a touché de sa main.
Que ferez-vous maintenant? Allez-vous vous faire vacciner puisque vous êtes des personnes contact?
Nous avons reçu des conseils des médecins. Dès que nous avons un cas pareil, nous devons les appeler. Nous avons leur numéro de téléphone. Ceux qui sont venus nous ont promis de faire le dépistage et de nous soumettre aux soins, mais ils ne sont plus revenus.
L'apôtre Élisée Ntoma du groupe de renouveau à Mandaka.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Burundi, l'ombre de la répression de 2015 plane encore sur Bujumbura, la capitale. Des mesures de sécurité très strictes y sont toujours en vigueur. Les habitants doivent avoir des cahiers chez eux et inscrire les noms de toute personne qui vient en visite. Les forces de sécurité peuvent débarquer à tout moment pour vérifier la liste des visiteurs et ceux qui dérogent à la règle risquent la prison. Reportage de Mohamed Youssouf à Bujumbura. Repris ici par Morgane Guériac.
Ira Kosé est âgée de 22 ans. Elle vit dans le quartier de Bujumbura où a commencé la révolte en 2015 contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. La répression a été sanglante. Beaucoup de Burundais ont fui leur maison, mais Ira Kosé est restée chez elle et passe la plupart de son temps toute seule.
Cela fait 2 ans que le gouvernement a remis à chacun un carnet. Et depuis, je n'ai reçu aucune visite parce que les gens ont peur.
Les autorités burundaises ont distribué ces cahiers. Les habitants doivent y marquer les noms des membres de leur famille et leurs visiteurs. Il faut signaler tous les visiteurs au représentant local du pouvoir. Il peut être membre de la milice Imbonerakure du parti au pouvoir, le chef de cellule chargé de surveiller une dizaine de concessions, ou bien le chef de secteur ou le chef de colline. Ne pas signaler ses visites ou ne pas inscrire les noms des visiteurs peut vous mener directement en prison. La police veille au grain par des fouilles régulières dans les maisons, ce qui terrifie Irakoze.
La police tape violemment aux portes. Elle réveille les enfants et fait peur à la famille. Cette violence nous fait penser parfois que nous sommes en train d'être attaqués par une bande de criminels. Les policiers viennent toujours de manière brutale et en grand nombre pour fouiller les maisons.
La révolte populaire de 2015 a été déclenchée par la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. La semaine dernière, les Burundais ont approuvé par référendum une nouvelle constitution qui devrait permettre au président Nkurunziza de briguer deux autres mandats de 7 ans à partir de 2020. Les États-Unis ont dénoncé ce processus pour son manque de transparence et les efforts d'intimidation de toute opposition dans un climat de peur pour tous les Burundais.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno, après adoption de la nouvelle constitution inaugurant la 4e République, a appelé tous les groupes armés à rentrer au pays. Idriss Fall a recueilli la réaction de Mahamat Ali, leader du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, qui se trouve dans le sud libyen.
On ne croit pas à la parole d'Idriss Déby. Idriss Déby a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Donc il a dirigé les Tchad grâce à une répression avec son armée clanique, avec la police politique, l'ANSI. Il n'a jamais tenu ses paroles depuis 28 ans. Il est au pouvoir. Nous, on ne croit pas à ses paroles.
Est-ce que, en fait, les chefs rebelles qui ont décidé de rentrer sont libres de leur mouvement, notamment ceux qui ont été extradés du Niger et Babalade qui a été extradé de la Centrafrique?
Depuis plusieurs années, Idriss Déby avait déjà extradé des Tchadiens au Nigeria en 92, 2 ans après son rentrée au pouvoir. Il a extradé aussi des opposants qui ont le statut de réfugié. Il a extradé à partir du Niger, par exemple le colonel Mohamed Fadil et le capitaine Weleda Nouri qui étaient extradés en 1994 par le régime du Nigérien de Maïren Sara. On sait que Ibn Omar a été assassiné en pleine ville de Djamena. Des défenseurs des droits de l'homme ont été exécutés à bout portant. On ne croit pas à les paroles d'Idriss Déby. C'est lui qui veut se maintenir au pouvoir en modifiant la constitution de la République. Leur mandat a été achevé depuis 2015.
Pourquoi vous avez pris les armes alors?
Nous pensons que la seule alternative aujourd'hui, c'est la rébellion. Les Tchadiens ont essayé de faire une alternative au Tchad, donc ça n'a pas marché. Et Idriss Déby même, il a dit qu'il n'est pas venu au pouvoir par un biais d'Air Afrique. La lutte armée, c'est la seule alternative crédible au Tchad. Donc, toutes les autres alternatives, toutes les autres moyens pacifiques pour mettre le pays sur les rails démocratiques. Maintenant, il est interdit même de manifester pacifiquement. Idriss Déby, il a, avec sa police politique, l'ANS, il arrête en l'air, torture, qui s'oppose à son régime. Ses proches, ses amis, ils pillent les ressources du pays. L'argent volé sont dans les paradis fiscaux.
L'armée tchadienne est une armée aguerrie. C'est elle qui est le fer de lance de la lutte contre les djihadistes dans la sous-région. Et cette armée aussi a déjà repoussé plusieurs offensives de rebelles vers N'Djamena.
Ce n'est pas une armée nationale, c'est un classé de milices. Je vous réfère au Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme qui a fait un rapport tout récemment en 2017. Ce rapport, les allégations de graves violations des droits de l'homme des milices tchadiennes qui étaient au centre Afrique et aussi dans d'autres pays, il intervient pour se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas une armée nationale, c'est des milices à la tête de Idriss Déby et c'est tous ses parents qui sont à la tête. Donc ce n'est pas une armée où toutes les couches sociales du Tchad sont dedans dans cette armée.
Mahamat Ali, leader du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, un groupe armé tchadien.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a promis un changement radical concernant les aides financières données à certains pays qui laissent rentrer des criminels aux États-Unis. Monsieur Trump a rencontré mercredi dernier à New York la police de l'immigration et de surveillance des frontières. Cependant, démanteler le gang Mara Salvatrucha, appelé aussi MS-13 ou MS-13, ne sera pas une opération facile. Le point avec Marie Benson.
Le MS-13 a été créé dans les années 80 à Los Angeles par des migrants venus du Salvador. Depuis, il s'est diversifié en incluant des membres d'autres pays d'Amérique centrale et du Sud, comme le Honduras, le Guatemala et le Mexique. Pour le président Trump, la devise de ce gang, c'est tuer, violer et contrôler.
L'autre jour, on m'a reproché de les avoir traités d'animaux. Ils disent qu'ils sont humains. Ils ne sont pas humains, ce sont des animaux.
These are animals. Démanteler le gang MS-13 est l'une des priorités du président Donald Trump. Il a félicité la police de l'immigration et de surveillance des frontières pour avoir emprisonné et déporté des milliers de membres de ce gang. Thomas Omas, directeur de la police de l'immigration, ou ICE, a affirmé que 4800 membres de gang ont été arrêtés l'an dernier, dont des centaines de leaders de MS-13.
Nous voulons les repousser de notre frontière au sud. Nous attaquons le MS-13 qui est basé au Salvador. Nos bureaux en Amérique centrale travaillent en étroite relation avec la police sur place et avec le procureur de Salvador. Nous avons nettoyé des rues des centaines de membres du gang MS-13 au Salvador.
Donald Trump a déclaré que les pays qui laisseraient entrer des criminels aux États-Unis risquent de le payer cher.
Nous allons trouver une solution pour retirer une grande partie de l'aide financière à certains pays. Peut-être même que nous ne les aiderons plus du tout, car avec tout ce que j'entends, je ne pense pas qu'ils aident notre pays de quelque manière que ce soit.
Les critiques disent que Donald Trump utilise la peur de gangs pour renforcer les lois contre l'immigration. Angel Reyes est un activiste défendant des droits des migrants.
Le président trouvera n'importe quelle excuse pour renforcer les lois contre les migrants. Il met en avant sa xénophobie, son racisme, et c'est pour cela que nous nous exprimons aujourd'hui, pour qu'il sache que dans notre communauté, c'est inacceptable.
Des familles et certains groupes locaux se sont réunis lors d'un forum pour protester contre les récentes attaques sur les migrants sans papiers à New York.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Chimbo de oro.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.